Les enjeux et défis du journalisme dans les États fragiles, focus sur Haïti. C'était le thème de la conférence de ce vendredi 6 octobre 2017. Pour aborder cette question, Marie-Soleil Frère, vice-rectrice aux relations internationales et à la coopération au développement de l'ULB, accueillait un politologue et plusieurs personnalités du monde des médias en Haïti. Alors, qu'est-ce qu'un État fragile et quelles sont les difficultés à exercer le métier de journaliste dans les États comme Haïti ? Voilà les questions qu'abordaient les différents intervenants de cette conférence.
Alors, donc maintenant, je vais vous appeler ici les membres du panel qui vont s'exprimer ce soir. Alors, je vais commencer par Manu Klimis. Manu Klimis est politologue à l'Université Saint-Louis, Bruxelles. C'est un spécialiste des États fragiles. Alors, il a travaillé beaucoup sur d'autres États, pas forcément sur Haïti. Mais bon, il va... Assieds-toi, Manu, je t'en prie. Voilà, il va nous entretenir de cette notion d'État fragile et voir dans quelle mesure Haïti a joué un rôle dans l'émergence de cette notion et cerner la signification de cette notion et les retombées qu'elle peut avoir pour la pratique du journalisme. Alors, Ernest Sagaga représente la Fédération internationale des journalistes et donc son travail quotidien, c'est de suivre les journalistes qui travaillent dans des contextes difficiles où les droits de l'homme ne sont pas respectés. Godson Pierre, je ne sais pas où est Godson, il est ici, donc, qui est directeur de Alter Press, qui est un média haïtien alternatif, et donc qui, depuis plusieurs décennies, suit le cheminement de la presse haïtienne. On donnera aussi la parole à Peggy Flore Pierre. Peggy Flore fait partie des participants à la... on va plus dire formation, on va dire à l'expérience conjointe entre les journalistes haïtiens et l'ULB. Elle travaille dans un journal haïtien qui s'appelle Le Nouvelliste. Elle nous fera part aussi de son expérience et de sa réflexion sur les difficultés à exercer le métier dans un contexte comme celui de Haïti. Et puis Candy Zidore, qui est aussi journaliste à Haïti, qui travaille dans le journal concurrent, hein, on peut le dire, Le National. Donc... qui va aussi partager avec nous son expérience spécifique. Donc merci à tous d'être là. Alors peut-être pour commencer, je vais donner la parole à Manu pour qu'il justement pose un peu le cadre du débat de ce soir. Qu'est-ce que c'est un État fragile? Quels sont les problèmes que rencontre la pratique du journalisme dans un État qui n'est pas un État de droit? Je pense que c'est déjà voilà, une question initiale qui peut permettre d'ouvrir ce débat.
Merci beaucoup et bonsoir à tous. C'est vrai que mon objet de travail en général, ce sont les politiques de coopération, développement et de coopération internationale avec les États fragiles, plutôt sur des terrains qui sont ceux de l'Afrique centrale que sur les Caraïbes. Je ne suis pas du tout un spécialiste d'Haïti, donc je vais me contenter de poser le cadre que d'autres plus compétents que moi vont remplir ensuite. Et je prends la parole comme chercheur en tout cas, et peut-être aussi comme acteur, puisque je suis sous le coup d'une interdiction de séjour dans un État fragile en raison d'une prise de parole publique sur la situation politique locale, ce qui me place dans une situation directement concernée par ce genre de problématique. Donc je vais d'abord brièvement présenter la notion d'État fragile, sa définition, de quoi il s'agit, et puis ensuite tenter de faire une série de liens entre la question des États fragiles d'une part, les droits de l'homme ensuite, et en particulier la liberté d'expression et la liberté de la presse. Pour ce qui est de la définition de l'État fragile, je voudrais simplement attirer l'attention d'un fait qui est en général d'une confusion ou d'une agglomération qui est souvent faite entre l'idée d'un État qui est failli, qui serait en échec total. On parle de faillite de l'État, de « failed states » ou de « failing states » en anglais, puisque la notion est d'abord américaine, et la notion d'État fragile, parce qu'en fait, il y a une vraie différence importante entre les deux qui est directement liée à ce qu'on va pouvoir en faire dans la discussion d'aujourd'hui. La généalogie de l'idée de la faillite de l'État, elle date du début des années 90, avec en particulier la Somalie et Haïti comme cas pilote, comme exemple, illustrant cette nouvelle notion. Et c'est une généalogie qu'il faut tracer depuis les think tanks néoconservateurs proches du gouvernement américain, de l'administration Bush senior, qui est aux commandes dans les années qui suivent immédiatement la fin de la guerre froide. Donc, la notion même d'État fragile, pardon, d'État failli, justement, voilà. La notion même d'État failli, elle suit une logique de justification d'une nouvelle politique d'intervention internationale qui est menée, y compris sur le plan militaire, On va parler des États-Unis d'abord, mais évidemment dans le cadre d'alliances plus générales ensuite. La question des États fragiles, elle est en fait plus récente. Elle part évidemment d'une dynamique qui n'est pas complètement déconnectée de la première, mais après avoir suivi une série d'avatars qui sont parfois tragicomiques dans les formulations qui ont été utilisées, on a parlé de pays à revenus inférieurs sous situation de stress, par exemple, pour faire une longue périphrase, mais il y en a eu plus d'une dizaine en fait qui se sont succédés. On arrive en 2005 avec un espèce de consensus général sur l'idée de fragilité de l'État, et c'est un consensus qui n'est pas tellement ancré dans une doctrine d'intervention militaire, c'est un consensus qui est ancré dans le discours international en matière de développement, d'aide au développement international. On définit en général, dans ce cadre-là, l'État fragile comme un État dont, je cite, « les instances étatiques n'ont pas la volonté politique et ou la capacité, les deux notions sont importantes, d'assumer les fonctions essentielles pour faire reculer la pauvreté et pour promouvoir le développement, ni d'assurer la sécurité de la population et le respect des droits de l'homme ». Une définition extrêmement large. Les enjeux qui sont identifiés dans ce discours sur l'État fragile sont de deux ordres. D'une part, celui de la sécurité internationale au sens le plus strict du terme. Les États fragiles sont considérés, et c'est évidemment quelque chose qui a très fort été influencé par les suites du 11 septembre 2001, sont considérés comme des havres potentiels de développement d'activités terroristes à portée internationale. C'est pas tellement le cas qui nous occupe par rapport à Haïti. D'autre part, l'idée qu'il y a des effets en cascade de déstabilisation de pays à l'échelle régionale sur l'économie mondiale. Autrement dit, il y a une série d'études macroéconomiques notamment qui montrent que la fragilité d'un État a un effet désastreux sur son développement socio-économique, c'est pas une surprise, mais aussi sur celui de ses voisins et un effet en domino de ce point de vue-là. Alors c'est une définition, la définition d'État fragile, c'est évidemment une définition qui est extrêmement normative. Elle sous-tend une espèce de conception qui est présentée à la fois comme universelle et hyper fonctionnaliste de ce que c'est qu'un État normal. Ça a fait l'objet de critiques nombreuses. L'idée n'est pas de reprendre ces critiques aujourd'hui, même si on peut évidemment en discuter un peu plus tard. La question de la terminologie importe finalement moins que... Parce que il existe plus d'une quinzaine de typologies différentes de fragilité des États, et en fonction des critères et de leur pondération, des États font ou non partie de ces critères. Par exemple, la capacité d'un État à faire exercer l'ordre public de façon, y compris de façon énergique sur son territoire, est perçue dans certains classements comme de nature à rendre l'État fragile, et dans d'autres comme de nature à le rendre au contraire solide. Donc, il ne s'agit pas d'entrer dans un débat terminologique là-dessus. Ce qui est intéressant et interpellant, c'est de voir que Haïti, quel que soit le classement qui a été utilisé dans toutes ces typologies qui existent, se retrouve systématiquement dans cette liste, malgré une situation de contexte qui est fort différente des autres États qui, en général, s'y retrouvent. Si on veut appliquer maintenant cette réflexion sur l'État fragile aux enjeux en matière de droits de l'homme en général, de liberté d'expression et de la presse en particulier, on passe donc par la coopération au développement. L'idée d'un lien entre fragilité de l'État et droits de l'homme, elle s'est surtout faite, dans les années 90 par l'introduction des conditionnalités politiques dans l'aide publique au développement. C'est l'invention de la notion de bonne gouvernance. C'est la diffusion de cette notion de bonne gouvernance par des acteurs massifs en volume d'aide et en influence diplomatique et en influence commerciale, l'Union européenne en tête, puisque c'est largement l'accord de Cotonou qui encadre donc les relations de coopération entre l'Union européenne et les acteurs des pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifique, qui est porteuse et vecteur de diffusion de cette notion. Maintenant, évidemment, dans ces différents textes qui parlent de gouvernance et qui lient l'octroi de financements importants d'aide publique au développement à des conditions préalables en matière de droits de l'homme, il faut constater que la focale est souvent davantage posée sur l'organisation régulière d'élections et beaucoup moins sur la question de la liberté d'expression et la liberté de la presse. En plus de ça, le poids qui est mis sur la reprise économique après une crise ou un conflit est tellement important qu'il encourage, on l'a dit à un instant, des régimes autoritaires dont certains sortent des classements de fragilité internationaux parce qu'ils sont fonctionnels. Et ensuite, la fragilité, c'est évidemment assez logique, elle est définie comme une difficulté de l'État à assurer la couverture des besoins de base de la population. Or, dans le discours des organisations internationales, il est clair que les droits de l'homme, en général, ne sont pas repris dans cette perception des besoins de base de la population et passent donc au second plan derrière les urgences de type alimentaire et de santé publique. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir que plus récemment, parce que, évidemment, ces approches-là, elles ne sont pas neutres, elles sont situées. Elles répondent aussi à un agenda en matière de consensus international sur les interventions. Il y a des critiques nombreuses qui sont formulées depuis maintenant presque 20 ans sur la notion. Il y a évidemment une évolution de la réponse institutionnelle qui a été donnée. Et donc les classements les plus récents donnent maintenant une place croissante aux droits de l'homme comme facteur de stabilisation d'un État et donc comme facteur de lutte contre la fragilité. En particulier, la liberté d'expression devient de plus en plus, dans les classements internationaux en matière de fragilité, un indicateur qui a une place de plus en plus importante pour déterminer si, oui ou non, un État doit être considéré comme fragile et, du coup, pour cibler les politiques qui doivent être menées en lien avec cet État. Par contre, malgré cette évolution conceptuelle qui est plutôt de nature à être, je dirais, satisfaisante, il y a quand même un impact limité pour trois raisons principales. La première, c'est que, et c'est extrêmement important dans le contexte qui nous occupe ici, la protection des droits de l'homme, elle est supposée garantie par des textes nationaux et par des textes internationaux. Et à l'inverse, en qualifiant un État de fragile, c'est un peu comme si on lui donnait une autorisation, on lui reconnaissait la possibilité, voire le droit, de ne pas pouvoir appliquer, de ne pas pouvoir faire appliquer les textes nationaux et les textes internationaux qui sont censés protéger les droits de ses citoyens. On reconnaît aussi l'impossibilité d'opposer, de jure, les instruments internationaux de protection des droits de l'homme sur un territoire qualifié d'État fragile, et en particulier pour la question des groupes non étatiques qui interviennent parfois de façon évidemment prégnante dans une situation de fragilité sur ce genre de territoire. Deuxièmement, on l'a dit, quand une attention est portée en matière de droits de l'homme sur la question de la fragilité, elle est surtout davantage centrée sur les droits qualifiés d'indérogeables, et donc ou sur les droits qui ciblent certaines catégories particulières de personnes fragiles. Le droit des enfants, le droit des minorités ethniques, le droit des minorités religieuses, et donc très peu les droits civils et politiques, et en particulier, au-delà du droit de vote, la liberté d'expression et de la presse. Troisièmement, il y a une mise en place par les organes internationaux de contrôle d'une approche extrêmement formelle de vérification de ce qui est mis en place pour lutter contre la fragilité. Et donc, autrement dit, on s'intéresse à l'échelle internationale, quand on surveille ce genre de situation, davantage à l'existence d'institutions, à l'existence de normes, et pas tellement à leur application, et pas tellement à leur effet, et pas tellement à leur impact. Du coup, la qualification d'un État comme fragile, elle va de pair avec un constat de manquement grave aux droits de l'homme. Ça, c'est assez inévitable, en particulier en matière de liberté d'expression et de liberté de la presse. Ça impacte, enfin, je déteste dire ça impacte, mais j'ai quand même fini par le dire, c'est quand même c'est la preuve du discours dominant en matière de nouvelle gestion publique, qui est justement la raison pour laquelle il y a cette focalisation sur la fragilité de l'État comme un ressort d'analyse de l'efficacité d'une action publique. Il n'y a pas de réflexion particulière sur la portée globale, sur la portée à long terme, sur l'impact de ce qui peut être mené comme partenariat avec des États qui sont dans des situations de difficultés particulières. Il y a une obsession sur la possibilité de mesurer des impacts à court terme d'investissements financiers qui sont consentis dans le cadre de l'aide au développement. Les indicateurs internationaux fonctionnent à ce niveau-là, à ce niveau d'une approche très managériale et très gestionnaire. Donc l'enjeu en matière d'État fragile, pour ce qui nous intéresse ici dans le cadre d'une réflexion sur une presse indépendante et critique, elle s'inscrit dans une double difficulté, à la fois le fait que c'est l'illustration parfaite, la caractérisation pour les journalistes qui interviennent dans ces contextes d'un travail sans filet, sans aucune garantie sur le plan national, sur le plan international, sans aucun mécanisme de protection, et donc le fait littéralement de jouer leur vie à travers leur quotidien. Et deuxièmement, évidemment, la nécessité de briser un cercle vicieux qui, lui, est commun à la quasi-totalité des situations de fragilité dans ce domaine, qui fait qu'une presse qui est sous pression par son manque de moyens s'inscrit dans une approche qui est souvent moins professionnelle, et ça peut se justifier bien sûr pour toute une série de raisons, que cette approche de critique qui est moins documentée, de sources qui sont moins recoupées et de prise de position qui frise parfois dangereusement du point de vue de l'État fragilisé avec de l'opposition politique, eh bien, est de nature à renforcer une réaction négative rapide de l'État et engager une spirale de réactions négatives qui finit à son tour par provoquer des réactions plus violentes de la part de la presse jusqu'au moment où l'acteur le plus faible, et c'est toujours la presse bien sûr, finit par perdre le duel. Alors Haïti pose question. Haïti pose question dans cette vision sur l'État fragile parce que bien sûr on y reconnaît toute une série de situations qu'on retrouve ailleurs et parce qu'on l'associe aux États fragiles dans tous les classements existants, je l'ai dit, alors qu'elle se place systématiquement au milieu d'États qui sont tous caractérisé par des situations de conflits ethniques, de conflits religieux ou d'autres types de conflits qui s'inscrivent dans une durée extrêmement longue avec une intervention souvent militaire internationale ou en tout cas, souvent militaire internationale, qu'elle soit une intervention, légale sous l'égide des Nations Unies ou une intervention militaire illégale dans le cadre d'interventions cachées d'États voisins. Et donc ça pose véritablement la question de la place particulière qu'occupe Haïti dans cette approche sur les États fragiles où, si on s'intéresse aux critères, aux conditions de fonctionnement, on retrouve énormément de similitudes, comme ça a été dit par Marie-Soleil. Mais si on s'interroge de façon plus fondamentale aux raisons qui poussent à l'existence de cette similitude, ben on se trouve quand même face à un cas singulier. Alors qu'est-ce que ça implique de votre point de vue ? Moi, ça m'intéresse de le savoir, évidemment. J'arrête pas d'entendre parler d'Haïti comme quelque chose de proche des situations que je connais en Afrique centrale, mais quand même pas tout à fait la même chose. Et donc, il serait temps que j'y aille, paraît-il, pour découvrir de quoi il s'agit. Moi, je serais ravi, en tout cas, de creuser cette réflexion par une comparaison qui peut être éventuellement boiteuse, mais qui certainement va s'avérer féconde. Je vous remercie.
Merci. Merci Manu Klimis. Donc voilà une première énigme. Haïti classé dans les États fragiles et qui est le seul pays classé dans les États fragiles qui n'est pas un État post-conflit ou un État en conflit. Alors la définition de Manu, c'était un État fragile, c'est un pays qui ne peut pas ou ne veut pas assurer la sécurité de sa population et assurer un développement qui permette de sortir la population d'une situation de pauvreté. Et donc je me tourne maintenant vers Ernest Sagaga de la Fédération internationale des journalistes pour savoir quels sont les risques que courent les journalistes qui travaillent dans ce type de contexte, que ce soit en Haïti ou dans d'autres pays du monde.
Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Évidemment, le premier de ces défis, c'est la sécurité. Parce que dans un État fort, dans un État stable, on dit que le monopole de la violence appartient à l'État. Et vous vous imaginez, dans un État fragile, il y a plusieurs pôles de pouvoir. Et ces pôles de pouvoir donnent justement à différents groupes une possibilité de s'attaquer, d'intimider les journalistes qui, selon eux, ne font pas un travail correct. Selon nos rapports, nous publions un rapport annuel sur les journalistes tués dans l'exercice de leur profession, et cela depuis 1990. Et il y a deux ans, nous avons publié un rapport sur les 25 ans, et les statistiques sont absolument sans appel. La plupart des journalistes tués sont tués dans des pays justement fragilisés, et ils le sont parce qu'ils ont voulu exposer soit la corruption, soit les abus de pouvoir, ou même les grosses violations des droits de l'homme dont Manu a parlé. Ça, c'est donc le premier défi, donc défi sécuritaire. Deuxième défi, c'est les moyens financiers et humains. Je crois que Marie-Soleil l'a mentionné au début. Nos collègues n'ont pas de conditions de travail adéquates, ils n'ont pas de financement durable ni garanti. Et cela conduit à un autre problème, celui de l'éthique et de la déontologie, qui évidemment est compromise par la corruption. Je vais vous donner un exemple concret, parce que je l'ai vécu moi-même. Il y a quelques années, j'ai travaillé pour la Coupe internationale. J'étais le porte-parole. Et lors de l'arrestation du premier suspect, M. Thomas Lubanga, j'ai passé une semaine à Kinshasa pour évidemment représenter la Cour et faire en sorte que les questions soient répondues sur le travail de la Cour. Et en certain moment, je voyais pratiquement chaque jour, il y avait une liste de personnes, soi-disant qui étaient sur la liste du procureur et qui devaient être arrêtées dans les jours à venir. Évidemment, c'était faux. C'était un peu de fake news de l'époque. Et ça m'a évidemment interpellé. Et à ce moment, j'ai décidé de rassembler les rédacteurs en chef comme collègues. J'ai dit, écoutez, allons prendre un petit déjeuner, discutons de quelque chose qui me dérange un peu. On a été, j'aurais posé la question très claire. Écoutez, je ne crois pas qu'il y ait une seule personne dans ce pays qui connaît mieux la Cour que moi. Ce que vous rapportez n'est pas vrai. Et de toute façon, si c'était vrai, vous ne devriez pas le faire. Donc je veux savoir d'où tenez-vous vos informations. Ils ont été très, très ouverts. Comme collègues, ils m'ont dit, mais Ernest, désolé, ça n'a rien à voir avec nous. Quelqu'un s'amène, un politicien s'amène avec une liste, avec quelques dollars, et nous dit, publiez ça. Alors je me suis dit, mais attends, mais pourquoi vous faites ça? Vous êtes journaliste. Parce que j'avais demandé qu'on me fasse une fiche pour chacun, tout un chacun de ces rédacteurs en chef. Donc je savais que c'était des gens formés, expérimentés. Je demandais, mais pourquoi faites ça? Et ils m'ont dit, ce sont des conditions de travail. Nous avons des familles à nourrir, nous avons des enfants à envoyer à l'école. On ne peut pas se permettre le luxe de ne rien faire. Évidemment, je pouvais monter sur les grands chevaux, moi, fonctionnaire international, qui roulait dans un véhicule blindé avec 4 gars armés qui me protégeaient. Mais si vous vous mettez à leur place, il y a moyen de comprendre. On ne peut pas excuser, mais au moins comprendre. Et donc, le manque de moyens, l'absence de conditions de travail adéquates, fait que, justement, la corruption sévit dans ces médias et que, donc, l'éthique et la déontologie disparaissent. Il y a aussi la formation professionnelle. Je me réjouis du fait que nos collègues haïtiens ont pu bénéficier de cette formation. J'espère qu'il y aura d'autres formations. Nous aussi, nous le faisons. Nous essayons d'organiser ces formations dans tous les pays où nous sommes représentés. Et ça donne vraiment une valeur ajoutée aux produits que nos collègues produisent. Donc, malgré ces difficultés immenses, je dois quand même noter que les journalistes dans des pays fragilisés représentent souvent la seule source d'information fiable sur la situation vécue dans le pays. Ils exposent les conditions de vie de leurs concitoyens et ils sonnent l'alarme, souvent au péril de leur vie, pour prévenir des crimes qui se commettent, que ce soit au Burundi, en Côte d'Ivoire, au Sud-Soudan, en Somalie, et j'en passe. Et donc, pour finir, qu'est-ce que nous faisons pour eux? Le travail de l'AFIJE consiste en 3 choses. Première mission de l'AFIJE, c'est de représenter et de défendre les intérêts de ces journalistes, que ce soit au niveau local, au niveau national, dont nous essayons d'interpeller les autorités des pays pour qu'ils fassent beaucoup plus, pour qu'ils essaient de protéger les journalistes, pour qu'ils essaient de faire en sorte qu'il y ait un environnement propice justement au travail des journalistes. Nous le faisons également au niveau régional, parce que, comme vous le savez, les instruments juridiques, les traités sont signés, bien entendu, par les pays, mais les dépositaires, les gardiens de ces instruments, c'est soit les organisations régionales, disons l'Union européenne, l'Union africaine, qui vraiment ont l'obligation de faire appliquer ces traités lorsqu'ils ne sont pas respectés par les États. On fait exactement la même chose au niveau des Nations Unies. Je me réjouis justement de la présence du représentant de l'UNESCO parce que nous travaillons étroitement avec l'UNESCO ainsi qu'avec d'autres instances spécialisées des Nations Unies sur le plan d'action des Nations Unies sur la sécurité des journalistes. C'est donc ça le premier volet. Deuxième volet, comme je vous l'ai dit, la sécurité pour nous passe en premier lieu. Et la sécurité, comme vous le savez, c'est d'abord une question personnelle. Nous sommes d'avis qu'aucun reportage, aucun sujet d'actualité ne vaut la vie d'un journaliste. Mais pour que justement un journaliste ou une journaliste puisse examiner les risques auxquels ils peuvent être exposés, il faut leur donner justement les connaissances qui leur permettent d'apprécier la situation, l'environnement, et c'est ce que nous faisons à travers ces formations en sécurité. Le troisième volet consiste aux interventions que nous menons à travers notre fonds d'entraide, qui est financé par les journalistes, pour justement au profit d'autres journalistes, que ce soit pour des gens qui ont besoin d'assurer la sécurité. Si, par exemple, ils veulent se déplacer de leur lieu de résidence pour aller dans un autre lieu où ils seront sécurisés, que ce soit pour l'assistance juridique, parce que, comme il a été dit, on a beaucoup de journalistes en prison actuellement qui sont emprisonnés simplement pour faire le travail. Et la plupart de ces gens n'ont pas les moyens de se faire représenter juridiquement. Et donc, nous intervenons pour leur assurer l'assistance juridique dont ils ont besoin. Et évidemment, il y en a qui tombent malades, ou leur famille, ou leurs enfants tombent malades. Là également, nous intervenons pour leur donner justement ce petit appui dont ils ont besoin dans des moments difficiles. Voilà donc un peu ce que je peux dire sur la situation des journalistes dans ces pays. Et je remercie encore une fois l'occasion qui m'a été donnée de faire ces quelques remarques. Et encore une fois, c'était un plaisir de revoir mes amis de Haïti. Merci.
Merci beaucoup, Ernest. Donc, on l'entend, dans les États fragiles, les journalistes sont confrontés à des défis sécuritaires, à des défis financiers, à des défis en termes de formation professionnelle. Mais moi, je pense que les défis qui sont posés par le contexte haïtien sont aussi spécifiques. Et ça nous a beaucoup étonnés. Quand on est arrivé en Haïti et qu'on a observé qui étaient les acteurs présents dans le secteur du renforcement des capacités des médias, de voir qu'on retrouvait là les mêmes acteurs que ceux qui interviennent dans les pays post-conflit dans lesquels on travaillait ailleurs. On retrouve les mêmes ONG qu'au Burundi, les mêmes ONG qu'au Congo, alors qu'il n'y a pas eu de conflit en Haïti. Et donc ça nous a beaucoup interpellés de nous dire, toutes ces ONG qui utilisent les médias dans le sens du journalisme de paix, de la construction de la paix, que font-elles ici dans un pays qui n'a pas connu de guerre comme le Congo ou le Burundi. Et donc, voilà, on a tout de suite saisi qu'il y avait des particularités de ce paysage médiatique. Et donc, je vais donner la parole maintenant à Godson Pierre, qui va nous essayer de nous livrer les caractéristiques de ce paysage médiatique haïtien et ses particularités.
Alors, donc, en Haïti, en tant que société spécifique, nous pouvons parler d'explosion de médias depuis un certain temps, dans une société caractérisée par une tradition d'autoritarisme et par la précarité. Je prendrai un petit bout de temps rapidement pour dresser le contexte médiatique en termes de quantité de médias. Il y a environ aujourd'hui en Haïti 700 stations de radio, 100 télévisions et 2 quotidiens, et puis différents hebdomadaires et médias en ligne pour une population qui est plus ou moins similaire à celle de la Belgique et sur un territoire qui est à peu près de la même superficie. La radio, comme c'était mentionné ici, c'est le média le plus important encore en termes d'audience. C'est le média le plus disponible, le plus accessible, le moins coûteux. Et la télévision, elle, est en développement. Son audience se renforce progressivement dans les villes. Les journaux sont à tirage limité, environ 20 000 abonnés. Mais ils ont une forte influence dans la vie politique en Haïti. L'audience d'Internet s'élargit. Environ 20% de la population y ont accès et l'évolution est très rapide. Les autres médias s'en servent comme source d'information et les réseaux sociaux font interagir les Haïtiens de l'intérieur comme ceux de la diaspora. Les jeunes s'en approprient en Haïti aujourd'hui. Alors, la liberté de la presse, on peut dire qu'elle existe en Haïti. C'est un acquis inébranlable des 30 dernières années. Le pays occupe aujourd'hui la 53e place sur 180 pays dans le classement mondial 2017 de Reporters sans frontières. Haïti ne parvient pas à retrouver sa performance de 2014, cette année-là. Elle occupait la 47e place. Maintenant, une des caractéristiques d'Haïti, c'est que c'est un pays quand même où on retrouve une tradition d'autoritarisme et dans cette tradition-là, la presse, à certains moments, a joué le rôle de contre-pouvoir. Durant ces plus de 200 ans d'indépendance, Haïti a connu beaucoup d'expériences de pouvoir autoritaire. La plus terrible est certainement la dictature des Duvaliers de 1957 à 1986. La sortie de dictature n'a pas été de tout repos et il y a eu quelques éclaircies démocratiques dans une transition très difficile. Il y en a qui disent que nous sommes encore dans une transition qui n'en finit pas. Vers les années 70, alors c'est dans ce contexte qu'apparaît le courant appelé le courant de la presse indépendante en Haïti, contexte de lutte contre la dictature. C'est une des périodes fortement caractérisées par une tendance de contre-pouvoir au sein d'une partie de la presse. Cette presse informe sur les réalités socio-économiques, sur les réalités politique, elle donne à lire et surtout à entendre des secteurs critiques vis-à-vis de la dictature. L'expérience dominante est celle d'une radio qui s'appelle Radio Haïti Inter, qui n'existe plus maintenant. Et la chose la plus importante qu'a faite cette radio, c'est d'introduire le créole dans la sphère d'information en Haïti, ce qui a libéré un petit peu l'expression au niveau de l'information, parce que avant l'information se faisait presque strictement en français, une langue que ne partage pas, disons, la majorité, que ne comprennent pas les Haïtiens dans leur majorité. Mais il y a eu aussi la répression contre cette expérience en 1980. La radio a été fermée, les journalistes exilés, d'autres emprisonnés, et l'ensemble de la presse qui se trouvait dans ce courant-là a été réprimé. Et puis, donc, le flambeau est repris par une autre station qui s'appelle Radio Soleil, appartenant à l'Église catholique, qui est devenue, dans les années d'avant, 1986, une caisse de résonance des revendications démocratiques et populaires, un espace de réflexion et d'échange qui contribue à la chute de la dictature en 1986. Et après, si je résume très rapidement, je peux dire qu'il y a eu une continuité de cette tendance dans des engagements qui ont été pris soit par des organismes ou d'autres médias durant la période, par exemple, du coup d'État sanglant de 1991. Entre 1991 et 1994, les militaires ont pris le pouvoir en Haïti et tentant de mettre fin à ce qui devait être la première expérience démocratique avec les élections de 1990. Et c'est à la suite de cette période qu'on a vu se développer le mouvement des radios communautaires en lien avec un pôle de presse alternative. Maintenant, sous la poussée des conjonctures politiques qui ont suivi la chute de la dictature de Duvalier, le nombre de médias a explosé, mais des problèmes de qualité de l'information se posent. Et d'un point de vue général, on estime même qu'il y a eu un recul considérable. Les références de rigueur ont été, ou bien même sont, laissées de côté, puisqu'on parle au présent. La facilité semble dominer alors que les conjonctures se révèlent de plus en plus complexes. Il y a aussi un déficit en matière de gouvernance du paysage médiatique, et ça, c'est un phénomène, je pense, important à souligner. L'autorité de régulation en Haïti est soumise à des logiques surtout politiques et a beaucoup de mal à contenir la ruée vers l'occupation des ondes. Sur 700 radios répertoriées, plus de la moitié n'est pas reconnue légalement, alors qu'entre-temps, il y a des types de radios qui n'existent pas. Peut-être chez vous, il y a des radios universitaires. Chez nous, il n'y a pas de radio universitaire. Et aujourd'hui, il n'y a pas de place pour abriter une radio universitaire, par exemple, dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince, parce que c'est saturé. Dans la plupart des médias, les réalités des régions, donc les réalités locales ou régionales, ne sont pas reflétées ou bien sont peu reflétées du fait d'une présence relativement faible de correspondants locaux et plus encore d'envoyés spéciaux dans ces régions-là. La question ne se pose pas seulement en termes de volonté, mais également en termes de moyens pour déployer des équipes en région. C'est un des principaux facteurs de la centralisation de l'information sur Port-au-Prince et moindrement sur quelques villes de province. Il faut dire que cela ne concerne pas seulement l'information. Dans l'administration à Port-au-Prince, il y a une tradition de centralisation. Trop souvent, donc, il faut profiter d'un déplacement organisé par une ONG, une organisation multilatérale ou bien une institution d'État pour se rendre sur le terrain. Certains médias arrivent même à mettre quelques balises, mais d'autres ne se préoccupent même pas de risques qui pourraient peser sur une éventuelle indépendance. Ce contexte d'occupation, eh bien, les institutions médiatiques échappent difficilement au magnétisme de l'acteur étranger qui est devenu un des principaux locuteurs dans l'espace public en Haïti à travers des conférences de presse qui se multiplient presque tous les jours, des interviews, des communiqués, des visites guidées, des soirées mondaines et d'autres activités mises en place par ces organisations-là. Les thématiques liées à l'actualité brute sont omniprésentes. C'est l'actualité facile, en dépit de certains efforts pour mettre l'information en perspective et tenter de la traiter en profondeur. Donc, les genres journalistiques utilisés sont aussi limités. La brève, les comptes rendus, les interviews, un peu moins d'éditoriaux. Les autres genres explicatifs ou analytiques sont presque absents dans le paysage médiatique haïtien. Et dans notre société, peut-être un peu surpolitisée et affectée par une polarisation exacerbée, les thèmes politiques constituent quasiment l'essentiel des contenus. Et le social, la santé, la culture ou l'environnement apparaissent moins souvent parmi les thèmes d'actualité. Et puis, bien entendu, il y a très peu d'investigations journalistiques. Cette très faible part de journalisme d'investigation peut s'expliquer par le fait que le pays a une tradition de régime autoritaire, j'en parlais, de bâillonnement des journalistes. La justice est faible en Haïti et ne parvient pas à mettre en confiance les journalistes sur la capacité à les protéger. D'ailleurs, cette faiblesse de la justice porte aussi les citoyens à avoir recours aujourd'hui encore aux radios pour des affaires qui devraient être traitées ou adressées à des tribunaux. L'exemple, les conflits terriens. On va à la radio pour exposer un problème terrien que devrait, par exemple, régler la justice. Dans une ambiance générale d'impunité, les assassins de journalistes courent les rues en Haïti. Un cas emblématique est celui du plus grand journaliste haïtien des 50 dernières années. Je veux parler de Jean-Dominique, qui a été assassiné en 2000. Le processus judiciaire, 17 ans après, continue de buter sur des obstacles. Un tel exemple, donc, envoie un signal très négatif, très fort, très négatif et dissuasif aussi à la profession. Voilà, le peu d'investigation n'est pas sans relation non plus avec la faiblesse des moyens de la plupart des médias pour entretenir des équipes appropriées. Le temps que ça prend pour conduire une investigation demande aussi de l'argent, que l'équipe soit rémunérée. Et puis, il y a aussi en Haïti un phénomène extrêmement important qui est le problème de l'accès à l'information, malgré une obligation constitutionnelle qui fait injonction au pouvoir public d'informer la population. L'administration publique refuse toujours de s'ouvrir. Les moyens sophistiqués sont mis en œuvre pour développer des stratégies de communication gouvernementale, jusqu'à la propagande même, mais les journalistes ont beaucoup de mal à trouver l'information dont les citoyens ont besoin sur les dossiers d'intérêt public. Il y a aussi, je pense, une tradition de bouche cousue en Haïti, en partie renforcée par la longue dictature qu'on a connue, la dictature des Duvalier. Il y a donc un ensemble de difficultés à trouver des informations publiques qui contribueraient, entre autres, à alimenter la vie associative. Et donc, ce vide laisse la place à des rumeurs dont la vitesse de circulation se démultiplie aujourd'hui avec les réseaux sociaux en Haïti. Mais en dépit de l'ambiance sociopolitique, je dirais quelque peu hostile, malgré certaines dérives, on peut dire que les jeunes générations aujourd'hui considèrent, et à juste titre, à la suite des combats menés par des aînés, qu'elles ont bien une bouche pour parler et pour se faire écouter, ce malgré des cas d'intimidation et d'agression qui ont été enregistrés ces dernières années. Mais la liberté d'expression, pourquoi faire? Pourquoi pouvoir parler, s'exprimer? Eh bien, c'est une question qui nous interpelle aujourd'hui et qui nous interpelle surtout sur ce que nous devons faire nous-mêmes de la liberté de l'information, de la liberté de la presse, pour qu'elle puisse servir au renforcement démocratique et au progrès social. En Haïti, comme dans tout pays qui doit relever le défi du développement et celui de la transition démocratique, les médias qui sont en faveur d'un état de droit ne peuvent pas être désincarnés. Les médias et la société civile, c'est mon avis, ont une alliance à faire, un combat à mener ensemble pour la promotion et le respect des droits humains. Cela passe, par exemple, par la sensibilisation des populations, l'interpellation des responsables, entre autres, sur la question de l'impunité, par exemple. La société civile doit être une partenaire des professionnels de médias et ces derniers doivent opérer avec équité, honnêteté, tout en conservant leur autonomie. En plus d'informer, de renseigner, de rassembler, d'orienter, d'alerter et de révéler, les médias se doivent surtout d'aider à faire la lumière sur des phénomènes et des faits frappants qui constituent des obstacles à l'avancement de notre société. Merci.
Merci beaucoup, Godson. Donc, on voit que le contexte est un contexte particulièrement complexe. Et donc, je vais demander à Peggy Flore comment elle travaille au quotidien dans cet environnement qui n'est pas facile, qui n'est pas facile en termes économiques, qui n'est pas facile en termes politiques, qui n'est pas facile non plus parce que l'extrême multiplicité des médias entraîne aussi une difficulté pour chacun d'entre eux à se consolider dans cet espace-là. Donc voilà, qu'est-ce que c'est être journaliste et journaliste femme au quotidien en Haïti ?
Alors, je dis bonsoir à tout le monde. Merci de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer. Que ça soit les gens en Haïti ou ceux qui s'informent sur Haïti depuis l'étranger, ils s'intéressent d'abord à la politique et à l'actualité. Donc, cela fait que certaines fois, je dois surtout miser, en tout cas ceux qui sont journalistes culturels, dans mon cas par exemple, nous devons miser sur la culture populaire, contrairement à la culture savante, ce qui m'amène à une autre position, c'est la difficulté qui existe, ou plutôt le schisme qui existe entre les journalistes qui s'occupent de culture populaire, c'est-à-dire la musique pop, le compas, ce qui est très populaire chez nous, et ceux qui font de la culture savante. On va voir le jazz, la musique classique, la littérature, et en tout cas dans ce champ-là. Donc, cela donne la difficulté de pouvoir se poser spécifiquement par rapport à cela, d'informer d'un autre côté une population qui est fragilisée au niveau de l'éducation et de la société. En fait, là, je parle de la majorité de la population. Les gens vont d'abord s'intéresser au prix du carburant ou à la cherté de la vie plutôt que de lire un article sur le dernier livre de Daniela Ferrière ou bien du festival de jazz, par exemple. Quoique la tendance change quelque peu ces dernières années. Mais l'autre difficulté que je connais, je suppose que c'est aussi le cas pour beaucoup de journalistes culturels, c'est que nos collègues qui travaillent dans les autres rubriques, par exemple la rubrique nationale aux nouvellistes qui s'occupent de l'actualité, de la politique, de la société, ceux qui sont en économie et parfois même le sport, ils pensent que nous sommes plus en train de nous amuser que de travailler vraiment. Ils pensent aussi que ce que nous faisons n'est pas très important. Et je le dis, des fois, c'est même pas le cas des collègues proches, mais c'est aussi dans la hiérarchie. Par exemple, si nous devons faire moins de pages, sortir moins de pages pour l'édition du jour, on devrait avoir 24, on doit avoir 16 pages. La première rubrique qui est sûr de tomber, c'est la rubrique culture. Et ce qui fait que pour évaluer mon travail, je dois vraiment m'attacher à un public qui lit le papier. Parce que le texte peut être publié en ligne, mais la diaspora haïtienne s'informe peu de la culture savante, en tout cas ce que je fais comme travail. Par contre, si je fais un article où nous avons aussi au Nouvelliste un pendant de culture populaire qui s'appelle Ticket Magazine, un sujet tout à fait banal qui se passe dans la vie culturelle populaire va être l'article le plus lu contrairement à un article que j'aurais produit sur Daniel Laferrière qui vient de rentrer à l'Académie française, parce que en général, ce ne sont pas ce genre d'informations que les gens consomment. Et d'un autre côté également, le fait que la population, le taux d'analphabétisme soit aussi haut chez nous, cela fait que le premier média de consommation, c'est la radio. Donc, nous nous retrouvons aussi dans la difficulté de traiter des informations qui s'adressent d'abord à un public de personnes cultivées, de personnes qui s'y connaissent. Traiter cette information pour que un lecteur lambda le comprenne. Et cela fait que, des fois, il est difficile d'amener l'écriture à ce niveau-là. Quoique déjà, c'est pas un public qui lit, donc nous sommes vraiment obligés de nous adresser à une niche, si je peux le dire comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, par rapport aux collègues, bien que nous soyons plus formés que nos collègues qui sont dans les autres rubriques, peut-être pas en économie, mais surtout au niveau de l'actualité, puisque ça ne demande que les techniques de base du journalisme pour traiter un article. Et comme le disait Godson tout à l'heure, les articles ne sont pas toujours fouillés, donc c'est vraiment en surface, ça ne demande pas beaucoup de compétences. Eh bien, ça arrive que le journaliste qui s'occupe de culture gagne moins qu'un journaliste qui est dans l'actualité, qui est dans la politique, qui est plus en vue. Donc, du coup, nous nous retrouvons avec, comme je le disais tout à l'heure, un schisme de ceux qui sont dans la culture savante et ceux qui sont dans la culture populaire. Tout le monde chez nous dit que la culture, c'est vraiment ce qui vend le mieux à Haïti, mais il n'y a pas une économie de la culture, il n'y a pas une politique culturelle, c'est pas bien défini. Chez nous, on est encore dans la culture comme quelque chose de folklorique, ou bien la culture qui tourne autour du vaudou. Donc, c'est vraiment des choses folkloriques. On ne dépasse pas encore ce niveau. Et non seulement c'est comme ça au plus haut niveau de l'État, et c'est comme ça aussi dans la population, comme je le disais tantôt. Un collègue va décider que moi, je ne fais que m'amuser. C'est vrai que nous nous amusons beaucoup quand nous travaillons, parce que aller au vernissage, c'est un travail qu'on fait avec plaisir, c'est un travail qu'on fait... Parce que si je couvre un festival de jazz, je suis en train d'apprécier de la bonne musique. Si je vais à une pièce de théâtre, je suis en train de voir une création qui intéresse l'esprit. Ce n'est pas la même chose pour un collègue qui doit couvrir les manifestations dans les rues, qui doit se taper les pneus et Abélard, c'est quelque chose, et la fumée des pneus, etc. Mais cela ne veut pas dire que je fais moins de travail au niveau de l'esprit, parce que nous écrivons également. J'écris comme lui, et des fois j'écris même davantage, parce que moi je dois avoir, si je lis un livre et que je dois en présenter une analyse critique, ça me demande davantage de travail que de lire, d'écrire un texte sur l'actualité. Mais on ne va pas le comprendre ainsi, parce que je suis en train de m'amuser, ce qui fait que certaines fois, on pense que le journaliste culturel, il ne mérite pas d'être mieux rémunéré ou aussi bien rémunéré qu'un journaliste qui s'occupe de politique. Il y a le fait aussi que cette précarité dans laquelle nous nous retrouvons, cela développe des accointances avec les grandes institutions culturelles, en tout cas les quelques-unes qu'il y a en Haïti, qui, certaines fois, va influencer l'angle d'un article. On peut très bien avoir des critiques sur une situation dans une institution, ou bien, même si cela ne vient pas du journaliste en soi, mais du public, eh bien, on va toujours trouver une manière de la présenter de plus politiquement correcte que possible, parce que, on ne voudrait pas rater le voyage qui nous emmène au Festival de jazz de Montréal. On ne voudrait pas rater la Foire du livre qui se fait à Paris, parce que les déplacements des journalistes en général, les journalistes culturels surtout, se fait par le financement de ces institutions-là. Les médias, les patrons de médias sont davantage intéressés à investir dans un voyage qui va couvrir l'Assemblée générale à l'ONU, ou bien qui va suivre le président dans une tournée quelconque aux États-Unis, mais le journaliste culturel, c'est pas le cas. Certaines fois, nous sommes obligés, effectivement, de côtoyer, plus que côtoyer certaines fois, les institutions culturelles qui ont le financement et qui, en même temps, qui vous permettent de produire, de faire un travail que vous aimez, mais aussi vous permettent de voyager. Donc, je pense que c'est en cela, principalement en cela, de mon point de vue, du moins de mon expérience, que se situent les difficultés que nous connaissons dans le milieu. Voilà.
Merci beaucoup, Peggy. Je pense que la situation n'est parfois pas tellement différente en Haïti et en Belgique. Je crois que cette question de la prise en charge des journalistes par des organisateurs d'événements et des accointances qui peuvent apparaître avec certaines institutions, c'est une question qui se pose un peu partout dans le monde. Et je crois aussi que le fait que le journalisme culturel passe au second plan par rapport au journalisme qui porte sur les enjeux politiques, c'est aussi quelque chose qui est généralisé, même si on peut comprendre qu'en Haïti, à cause de cette fragilité de l'État dont on parlait avant, il puisse y avoir un sentiment que d'autres secteurs sont plus urgents, comme le secteur de la santé, comme le secteur de l'éducation, comme le secteur de la sécurité. Donc on va écouter maintenant, pour terminer, le témoignage de Kendi, qui est journaliste au National.
Bonsoir tout le monde, merci d'être avec nous ce soir pour cette belle occasion. Je voudrais surtout, d'entrée de jeu, faire de petites considérations, je dirais théoriques, sur le fait que les difficultés liées à l'exercice de la profession du journalisme, je dirais, ce sont des difficultés évidentes et il ne saurait en être différent. Parce que le rôle que la presse est appelée à jouer dans tout ensemble social est vraiment crucial. C'est-à-dire, dans le cadre d'un schéma systémique, on ne peut pas imaginer que la presse, en tant qu'institution, qui est amenée à favoriser le changement social, en tant qu'institution qui doit participer à toute une dynamique systémique, j'ai bien dit, la presse, quand il y a une crise qui touche l'ensemble de la société, quand la crise s'étend à toutes les composantes de la société, la presse est également très concernée. Par contre, il y a une autre approche, je dirais tout aussi valable, qui peut tenir la route. C'est que la presse est une institution qui est appelée à jouer un rôle d'avant-garde. Avant-garde, cela veut dire la presse a l'obligation, des fois, d'aller à contre-courant. Et sur ce point, je peux dire que la presse haïtienne a un très grand mérite. Si on peut faire ce petit retour dans l'histoire, on voit que la presse haïtienne a joué un très grand rôle. La presse haïtienne a participé de façon active à la lutte qui a conduit au renversement du régime dictatorial des Duvaliers, dont les atrocités ont duré près de 30 ans. Alors, la presse haïtienne fait face à de nombreuses difficultés, mais c'est une presse qui se bat pour faire son travail, malgré ces difficultés qui ont rapport avec la superstructure socio-économique du pays. Mais il faut le reconnaître, ce n'est pas seulement en Haïti que la presse connaît une crise. Peut-être que la crise de la presse haïtienne a ses particularités. Par exemple, on peut s'attarder un peu sur la crise du financement des stations de radio, des stations de télévision, du journal. Parce que la presse haïtienne vit essentiellement de la publicité. Mais une publicité qui sort du trésor public et en majeure partie, parce que l'État lui-même est un grand agent économique. Donc on a la presse qui essaie de survivre avec les miettes de l'État. Cela crée une situation que d'aucuns qualifient même d'une sorte de prostitution. La presse se trouve dans l'obligation de chercher la sympathie des autorités. La presse doit subir une situation presque de chantage, parce que vous avez des institutions de l'État qui donnent des contrats publicitaires, des contrats assez juteux, et la presse les stations de radio, les stations de télévision n'ont pas le même accès à ces contrats. C'est-à-dire, vous avez des stations de radio, des stations de télévision qui sont obligées de chercher la sympathie des autorités pour avoir des contrats publicitaires. Donc, le problème du financement de la presse haïtienne, c'est un problème très grave. Et cela va affecter tout carrément le travail des journalistes. Parce que vous allez trouver des stations de radio, des stations de télévision qui fonctionnent avec des effectifs très réduits. Je vous parle de salles de rédaction qui n'ont même pas une dizaine de journalistes pour couvrir, je dirais, les événements à rapporter, les événements qui font que l'on aura de l'information dans les éditions. Cela crée une situation qui met le journaliste sous pression, mais constamment sous pression, et le journaliste doit rapporter les faits, des fois sans pouvoir faire des analyses, sans pouvoir donner une information responsable. Donc, sur le plan technique même, en termes de traitement de l'information, on va voir que le problème du financement des médias, ça va affecter la performance des journalistes, et ça va également faire que les médias ne peuvent pas recruter des personnels et qualifiés. On a eu une sorte de concurrence, et on en a parlé après le séisme de 2010, une sorte de concurrence entre les médias et les ONG. Les médias ont perdu les meilleures têtes, puisque les ONG, ils peuvent offrir de bons salaires. Et les médias ne peuvent pas faire cette guerre, puisque c'est pratiquement une guerre perdue d'avance. Il y a tellement cette limitation, ce problème d'effectif qui se pose dans les rédactions, que le directeur de l'information ne peut se permettre de mettre un journaliste sur un sujet et attendre que le journaliste présente un reportage, c'est-à-dire le journaliste va mettre des heures à préparer ça. Mais non, il y a toute une pression qui fait que le journaliste doit sortir d'une conférence de presse pour aller à une autre et avoir deux ou trois sujets pour traiter pendant la journée. C'est-à-dire, l'information n'est pas traitée puisque la presse est dans un affolement constant. La presse doit délivrer la marchandise, mais avec vraiment une qualité que l'on peut toujours remettre en question. Et sauver l'information, c'est avoir des journalistes qualifiés, des journalistes qui soient capables de bien traiter l'information, parce que le problème ne se pose pas uniquement dans les stations de radio que le problème se pose, même dans la presse écrite que l'on a longtemps considérée comme la réserve en Haïti. La réserve, c'est-à-dire, c'est le secteur de la presse où l'on trouve des journalistes, les journalistes les mieux qualifiés. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que l'on constate dans la presse écrite? On voit que ce sont des articles où l'on ne respecte que la règle basique, à savoir la pyramide inversée. Et puis après, on peut avoir des titres qui ne veulent rien dire et des articles où vraiment on peut tout lire mais ne rien comprendre. Ça existe. Peut-être pas seulement en Haïti. Parce que le problème du traitement de l'information, c'est quelque chose de très académique et ça appelle des fois des subjectivités, mais j'ai l'habitude de lire moi aussi des textes dans des journaux étrangers et ne rien comprendre. Les souffrances de la presse haïtienne, pour être plus direct, c'est pas que à la radio, mais dans la presse écrite, il y a le problème de qualité qui se pose aussi. Donc, c'est pratiquement le panorama. Avec tout ce tableau, avec cette dynamique, on va directement voir qu'il y a un déclin, le déclin ou la perte d'intérêt pour l'excellence. C'est-à-dire le journalisme d'excellence, c'est quelque chose qui est en voie de disparition en Haïti, parce que c'est la facilité qui prime. Il y a ce que Bourdieu appellerait peut-être un habitus professionnel qui fait que l'on voit le journaliste comme quelqu'un qui fait quelque chose de facile, c'est-à-dire aller à la radio, dire ce que l'on a à dire, peut-être se moquer des politiciens, et c'est ça, le travail est fait. Donc, le problème de qualité, ça, ça va jusqu'à mettre en péril l'information pour la postérité. C'est-à-dire, on se demande que sera le journaliste de 2030 en Haïti. Quel profil ce journaliste aura et quel travail il sera en mesure de produire. Merci.
Vous venez d'écouter une conférence sur le thème des enjeux et défis du journalisme dans les États fragiles et en particulier à Haïti. Une conférence enregistrée à la faculté d'architecture Lacambre à Flagey. Pour réécouter la conférence, c'est en ligne sur le site sonore.ulb.ac.be.
Radio Campus, Bruxelles, 92.1.